Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : Où es-tu donc ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit : Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit : La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme : Qu'as-tu fait là ? La femme répondit : Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous. Afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qui est produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, Nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête. » Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Les enfants du primaire sont attendus par le père Chauvin. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. À quelles conditions est-on vraiment chrétien, disciple du Christ? Les textes liturgiques nous donnent une réponse simple. C'est en étant à l'écoute de Jésus en choisissant Jésus et en le préférant à tout. Voilà, le résumé est fait. Je pense que je peux rentrer tranquillement, n'est-ce pas? Mais le résumé d'un livre n'empêche pas de le lire. Et donc, on va essayer de parcourir ces textes ensemble pour comprendre. Frères et sœurs, nous le savons, dans notre société aujourd'hui, la question de la liberté est une question importante. Elle est diversement interprétée et revendiquée. Cette liberté rime surtout souvent avec la tolérance envers le choix de chacun. Mais cet appel à la tolérance, frères et sœurs, qui est bien sûr une valeur essentielle du bon vivre ensemble, peut cependant facilement glisser vers une sorte de laisser tout faire, une certaine indifférence, voire même une certaine neutralité. Or, la vie chrétienne est loin d'être une vie neutre, sans couleur et sans saveur. Et Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous le redit avec force. Oui, dans son ministère, Jésus a eu bien des partisans et des sympathisants. Mais son activité a connu aussi bien d'opposition et de nombreux obstacles. Et dans l'évangile de ce jour, nous pouvons ainsi nous rendre compte que l'un des premiers obstacles à la mission de Jésus, ce sont les membres de sa famille. L'évangile de ce jour nous dit en effet qu'il l'accuse de folie et ils viennent pour se saisir de lui. D'ailleurs, le terme grec utilisé nous montre, suggère une certaine violence. Leur intention n'est pas du tout amicale. Mais comment comprendre cette attitude des membres de sa famille envers lui? Il faut dire que depuis le jour de son baptême par Jean, qui a été couronné par la descente du Saint-Esprit sur lui, les gens de chez Jésus ne le reconnaissent plus. Parce qu'il est devenu en effet un prédicateur ambulant et virulent, dont les propos véridiques dérangent et dont la renommée fait des jaloux. Les parents de Jésus veulent certainement éviter des frictions avec les autorités religieuses avec lesquelles l'activité de Jésus le met très souvent en grande discussion. Les membres de sa famille veulent tout simplement que Jésus ne se distingue pas, qu'il soit comme tout le monde. Et c'est pour cela qu'ils viennent pour l'arrêter, au pire, le réduire au silence. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Cette réponse de Jésus, frères et sœurs, à la demande de sa famille, exprime clairement son refus courageux d'obtempérer à leurs injonctions, bien sûr au détriment de la volonté divine et de sa mission. En préférant la parenté spirituelle à celle de la chair, l'attitude de Jésus nous rappelle d'une part sa mise en garde qu'il ne suffit pas, de connaître Jésus. Il ne suffit pas non plus de porter le nom de chrétien pour être enfant du royaume, il nous l'avait dit. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Ce que nous professons doit être corroboré par nos actions quotidiennes. D'autre part, ce choix de Jésus nous rejoint, nous, en tant que disciples, nous qui nous disons disciples du Christ, son choix nous rejoint dans une grave interrogation. Jésus a assumé sa mission. Et nous, sommes-nous prêts à accepter les vocations un peu folles, déraisonnables aux yeux des hommes que Dieu nous confie? Sommes-nous toujours prêts à assumer notre folie contradictoire devant les normes habituelles du monde, dans les affaires, dans les problèmes de conscience, de conduite personnelle et collective, comme l'a fait Jésus? Ou préférons-nous tout simplement être un caméléon qui prend la couleur du jour et suit la mode? En tout cas, Jésus, dans cet évangile, n'est pas de cet avis et il le démontre face aux scribes. Vous le savez, les scribes avec les pharisiens sont les adversaires déclarés de Jésus et de sa doctrine. Et dans l'évangile de ce jour, leur opposition à Jésus se meut en une accusation. Oui, il est possédé par Belzéboul, disent-ils. Ou encore, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ces accusations, frères et sœurs, non seulement jettent le soupçon et un total discrédit sur l'activité de Jésus, mais c'est pratiquement une accusation de sorcellerie, d'activité démoniaque, ce qui est passible de la peine de mort selon la loi de Moïse. On peut dire que les scribes tiennent là un bon moyen de pression pour faire taire Jésus. Mais loin de s'aplatir comme l'aurait fait toute autre personne devant la gravité d'une telle menace, Jésus révèle quelle est réellement son œuvre et partant quelle est la mission de tout baptisé. Oui, il s'agit pour lui de lier Satan. de lui prendre les hommes possédés par lui afin de les rendre à l'Esprit de Dieu. Ce qui signifie tout simplement que Jésus est là pour combattre le mal, faire le bien en combattant le mal. Oui, personne, nous dit-il, ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Cette affirmation de Jésus, frères et sœurs, c'est la posture du combattant qui ne veut pas se laisser faire. Oui, le message est, on ne peut plus très clair. Le chrétien qui se dit disciple de Jésus ne peut pas se contenter de la mollesse invertébrée, de la lâcheté inconsistante, ni encore moins se laisser porter au gré du vent de la mode et de la pensée en face du mal qui s'étale en lui et autour de lui. Il doit le combattre comme Jésus a mené ce combat jusqu'au bout. Oui, face aux multiples agressions, à la volonté affichée, par exemple, de décrédibiliser la foi chrétienne, il faut, nous dit Jésus, des hommes et des femmes qui prennent la défense de l'Église, des chrétiens. Cela a été ainsi dès le début de l'Église. Lisez un peu les écrits de Saint Irénée de Lyon, qu'on appelle des écrits apologétiques. Oui, il faut des hommes et des femmes qui prennent cette responsabilité de la défense de l'Église et des chrétiens. Et l'engagement de Jésus nous montre que chacun de nous doit se sentir concerné par ce combat. Son attitude nous enseigne qu'être chrétien, c'est faire des choix à contre-courant au risque d'apparaître comme un bizarre, un anormal aux yeux du monde. L'attitude de Jésus nous interroge aussi. Oui, moi qui me dis chrétien, disciple du Christ, ai-je déjà pris ce risque? Sur quel point concret de ma vie professionnelle, familiale et personnelle ai-je déjà pris ce risque, comme Jésus? Dans la première lecture, nous pouvons nous rendre compte de ce que j'appelle les résultats des mécanismes du mal, Adam et Ève. Oui, si le diable a réussi face à eux, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont manqué de confiance en l'amour de Dieu. Et en choisissant le côté du diable, ils en ont fait les frais. Oui, ils ont préféré écouter le diable plutôt d'écouter Dieu. La réaction de Jésus face aux scribes, frères et sœurs, c'est un appel que nous avons à entendre, un appel à discerner en ouvrant nos yeux et nos intelligences sur toutes ces choses qui nous sont servies à longueur de journée, sur toutes ces théories bien séduisantes qui nous sont servies. Joseph Bobel, chef de la propagande d'Hitler, disait ceci: si on répète assez souvent un mensonge, il finit par devenir vérité. Et il savait bien de quoi il parlait. Oui, frères et sœurs, méfions-nous de ces pseudo-vérités qui nous sont servies par des gens qui se disent savants et connaisseurs. Saint Augustin disait qu'il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Oui, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras les talons, dit Dieu. Nous sommes engagés dans un combat, mais l'issue de ce combat est déjà connue. Et c'est une manière imagée pour Dieu d'affirmer cette victoire inéluctable de l'humanité sur le mal. Et c'est cette certitude que Saint Paul nous invite à partager. Quand dans la deuxième lecture, il nous dit « Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Mais cette affirmation, c'est l'expression de l'expérience personnelle et de la puissance agissante du ressuscité qui a vaincu le mal et qui, sur la route de Damas, a détruit en Paul toute la haine et toutes les théories erronées qu'il ruminait contre Jésus et ses disciples. Oui, Paul a fait cette expérience. Il sait que Jésus a vaincu le mal et que le disciple qui s'engage à la suite de Jésus vaincra aussi le mal. Cette expérience lui fait dire un peu plus loin dans les mêmes textes. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si l'homme intérieur va vers sa ruine, même si l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, nous pouvons chuter, nous pouvons tomber, mais le Seigneur est là pour nous relever. Le combat dans lequel nous engage notre vie de baptisé doit s'appuyer sur une foi indomptable, la foi dans le ressuscité. Jésus est toujours avec nous pour nos combats contre le mal. En conclusion, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prendre dans l'Évangile que ce qui nous arrange, en allant dans le sens de nos propres goûts. C'est courir le risque de commettre le péché contre l'Esprit Saint dont Jésus nous met en garde. Oui, si ce péché concerne au premier chef ceux qui s'obstinent volontairement dans le mal ou refusent crânement Dieu et son amour, il nous concerne également en tant que croyants sur le registre du discernement. Oui, il y a le risque de prendre nos propres idées comme venant de Dieu. Les repères sont pourtant simples. Tout ce qui nous conduit à faire le bien et à aimer notre prochain vient de Dieu. Le reste ne vient pas de lui. Jésus dit bien que Dieu pardonne tous les péchés et tous les blasphèmes. Et le psaume de ce jour que nous avons médité, donne un bel écho de cette miséricorde de Dieu. Mais frères et sœurs, cette bonté miséricordieuse de Dieu porte néanmoins une exigence de rigueur totale. Dieu ne condamne pas, c'est vrai. En revanche, il ne peut rien pour celui qui, dans un refus volontaire, obstiné, tenace, qui au nom de sa liberté libertaire, se moque de son amour. De même, Dieu ne peut rien pour celui qui, au lieu d'écouter l'Esprit Saint pour conduire sa vie, s'écoute lui-même. C'est le cas, par exemple, quand nous nous fâchons contre Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que nous pensions être bien pour nous. Et c'est exactement l'attitude, on va dire, cette attitude que l'on retrouve chez les scribes. Eux qui ont jugé l'activité de Jésus sans être capables de s'ouvrir à l'activité de l'Esprit Saint, ou du moins de comprendre l'activité de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, en adoptant une telle attitude, nous nous mettons en porte-à-faux avec Dieu et avec l'Esprit Saint. Dans notre société actuelle de revendication de la liberté, dont j'ai fait mention tantôt, cette mise en garde de Jésus est à prendre très au sérieux, frères et sœurs. Car comme le dit une sagesse africaine, quand on ne maîtrise pas la direction du vent, il faut éviter de s'amuser en plein air avec la poudre de piment. Au final, frères et sœurs, il faut admettre qu'être chrétien n'est pas chose facile. Car si tu veux être reconnu et populaire, si tu veux une vie facile et confortable, si tu as peur d'être critiqué, si tu crains les obstacles, si tu crains ceux qui cherchent à te décourager, tu ne peux pas vivre en chrétien et tu ne peux pas être un bon disciple du Christ. Mais si tu choisis le Christ et si tu décides de chercher le chemin, la vérité, la vie, si tu cherches la vraie lumière, la paix véritable qui s'obtient au prix d'une grande lutte contre soi-même et le mal autour de toi, en disant oui véritablement à Dieu, tu trouveras toujours le Christ sur ton chemin et tu trouveras toujours des frères et sœurs qui viendront à ton secours. Car c'est en disant oui à Dieu, c'est ce oui à Dieu, frères et sœurs, qui fait de nous la famille de Jésus, cette famille dans laquelle nous nous entraînons. Alors demandons au Seigneur de nous aider à lui dire toujours oui, à l'instar de la Vierge Marie, un oui franc, jamais repris et assumé jusqu'au bout comme Jésus l'a fait. Que Dieu nous écoute et nous exauce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.